Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.
Hello Jeanne.
Ça va ?
Ça va super et toi ?
Je vais bien, mais j'ai hâte de commencer cette émission, donc on va y aller tout de suite. Dis-nous Mathéo, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui on va commencer par quelques petites actualités. Ensuite Lucas va nous parler du sport durant le troisième épisode de sa chronique. Et bien évidemment le reportage du jour, celui de Leïla dans le sujet et les MNA. Je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai pas envie de vous spoiler le reportage et on va donc finir par la chronique sur la drague qui est également faite par Leïla. Tout ça entrecoupé bien sûr de quelques pauses musicales.
Ah, un bon petit programme. On commence ?
Ça me va. Allez, je te laisse présenter du coup le premier sujet d'actualité.
Alors, je suppose que vous savez ce qu'est un congé maternité ?
Évidemment. Les jeunes mamans ont droit à 14 semaines de congés payés en Suisse. Ça leur permet de créer des liens avec leur nouveau-né.
Effectivement. Et concernant le congé paternité, le combat est toujours d'actualité. Mais ce n'est pas de ça que l'on va parler aujourd'hui.
Nous allons vous parler des parents qui adoptent un enfant.
Et oui, un projet de la Commission de la Sécurité Sociale du National visant à accorder 2 semaines de congés payés aux parents qui viennent d'adopter un enfant de moins de 4 ans a été approuvé par le Conseil fédéral ce mercredi.
En effet, les conseillers fédéraux estiment que peu importe que les parents soient biologiques ou adoptifs, ils doivent avoir les mêmes droits. Une initiative parlementaire avait déjà été proposée par Marco Romano. Elle évoquait un congé de 12 semaines.
Un sujet plus en lien avec le reportage de Leïla que nous allons écouter plus tard. Des migrants tentent de rejoindre le Royaume-Uni par camion.
L'enquête sur le drame de 39 corps retrouvés dans la remorque d'un camion près de Londres n'est pas terminée. Les corps n'ont pas encore été identifiés. Malgré ces horreurs, des migrants veulent à tout prix traverser la Manche pour trouver du travail ou pour retrouver leur famille.
8 Afghans, dont 4 mineurs, ont également été retrouvés dimanche à Calais en état d'hypothermie à l'arrière d'un camion.
Certaines personnes désespérées vont même jusqu'à tenter la traversée à la nage. Les patrouilles sur les côtes françaises sont de plus en plus nombreuses, les contrôles des camions qui passent par les tunnels sous la Manche sont plus minutieux et les Britanniques ont fait un nouvel effort financier qui servira à renforcer le système de contrôle.
Voilà, c'est tout pour l'actualité.
Merci à RTS et Europe 1 et bien sûr 24h aussi pour ces précieuses informations. Je vais maintenant laisser place à la chronique de Lucas.
On va passer maintenant à la chronique suivie du sport de haut niveau pratiqué par la jeunesse en Suisse. Aujourd'hui, nous allons plus précisément parler des facteurs qui peuvent entraîner une mauvaise santé mentale de nos sportifs d'élite et les conséquences que cela peut avoir sur eux. En effet, souvent considérés comme des surhommes, les athlètes de haut niveau peuvent souvent dérailler mentalement à cause de plusieurs facteurs.
Quels seraient ces facteurs avant le cas ?
Alors tout d'abord, je me suis renseigné et tout le monde s'attend à ce qu'ils soient parfaits et qu'ils excellent dans leur domaine de prédilection. Stress, pression, responsabilité et entourage peuvent donc réellement influencer sur cette santé d'un point de vue psychologique, donc des sportifs.
Pourquoi certains athlètes se mettent-ils autant de pression, de stress, comme tu l'as dit juste avant ?
Eh bien, selon plusieurs psychologues, le stress chez les athlètes est toujours généré par le même principe, le désir de vouloir bien faire. Forcément, cette volonté de vouloir toujours être au top et de toujours vouloir faire mieux s'accompagne nécessairement d'une certaine pression qu'on se met à soi-même ou qui provient de l'extérieur.
Pression extérieure ? Ah, tu veux parler des proches du sportif ?
Oui, mais pas seulement. La pression venue des sponsors ou bien de la couverture médiatique, qui joue un rôle très important pour les athlètes dans certains sports, peut réellement avoir un gros impact très négatif sur certains athlètes, qui voient leurs résultats à la baisse de temps en temps. Mais comme tu viens de le dire, la pression provenant des amis ou de la famille peut aussi, et pour beaucoup d'athlètes, être un stress permanent pour eux.
Je me pose une question. Est-ce que cette pression, ce stress qui serait dû à de mauvais résultats dans un quelconque sport, se fait-elle plus ressentir dans un sport joué individuellement ou dans un sport en équipe ?
Alors, d'après Monsieur Fabien Abejan, préparateur mental pour athlètes, les problèmes psychologiques qui seraient dus à de mauvais résultats dans un sport se feraient plus ressentir dans un sport individuel, car toute la faute est vraiment mise sur une seule et unique personne. Il est donc difficile de réussir à assumer tout cela tout seul. Tandis que dans un sport en équipe, la faute est partagée entre plusieurs athlètes. Elle se ferait inconsciemment moins ressentir.
Quels seraient alors les risques d'une mauvaise santé mentale sur le long terme ?
Une anxiété mal gérée peut créer des séquelles très graves. Si le stress perdure, ce n'est plus que dans l'environnement sportif que les effets vont se faire ressentir, mais également dans le quotidien du sportif. De la dépression peut alors très bien se faire ressentir, ce qui peut être très grave pour un athlète. Beaucoup d'exemples d'athlètes qui n'avaient pas réussi à gérer tout cela, seuls, ont tout simplement arrêté leur sport ou se sont, pour certains, même donné la mort, comme Robert Henke, ex-Gardien du FC Barcelone. Alors j'ai interviewé un ami à moi qui justement connaît très bien toute cette situation. Il s'appelle Maxime Mouraka et avait tout pour réussir dans son sport favori, le golf. Salut Maxime. Alors tout d'abord, as-tu arrêté ton sport aujourd'hui ?
Oui.
Pourquoi ça ?
Le golf, c'est un sport qui demande vraiment beaucoup d'entraînement, de régularité. Les compétitions, c'est tous les week-ends en été. Du coup, ça fait que l'entraînement, c'est au quotidien. Tu n'as pas le droit de pause. Tu as les comptes à rendre. J'avais un sponsor, je devais rendre la comptabilité pour tous mes comptes pendant l'année. Je devais lui rendre aussi des résultats, ce qui fait que la barre était toujours assez haute. Et j'avais bien sûr encore la famille qui était derrière, ainsi que les problèmes familiaux qui ont joué un gros impact.
Te mettais-tu de la pression, du stress du coup par rapport à toutes les choses que tu viens de dire précédemment ?
De la pression, je m'en mettais, mais seulement avant le tournoi, pas pendant le tournoi, parce que quand j'étais dans le tournoi, c'était au mois de bulle. Et je me focalisais seulement sur le jeu et pas sur ce que je devais avoir, qu'est-ce que je voulais. J'étais seulement sur le jeu.
Et le ressentais-tu de la part de tes proches, donc de la famille principalement ?
La pression, tu dis ?
Oui.
Oui, un petit peu. Ils me poussaient quand même beaucoup. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai arrêté, parce que ça venait plus de moi-même. Normalement, le golf, c'était mes parents qui me poussaient. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible si tu veux faire un sport. Ça doit venir de toi-même et pas des personnes extérieures.
Merci beaucoup Maxime.
Merci Lucas.
Au revoir. On remercie donc très chaleureusement mon ami Maxime Mouraka pour ses infos très intéressantes. On va écouter maintenant Girls Like You de Maroon 5. Bonne écoute. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with. the guitar.
Parler des migrants MNA.
MNA, j'imagine que c'est une abréviation, du coup, et est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie ?
Alors, MNA, c'est l'abréviation de mineur non accompagné. C'est donc une catégorie juridique, mais pas que, qui désigne un enfant qui est privé d'une tutelle légale, donc qui n'a par exemple pas de parents. Ce terme, mineur non accompagné, est utilisé pour des migrants, mais c'est ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il peut aussi être utilisé pour d'autres cas.
Ah, du coup, si j'ai bien compris, tu vas nous parler des enfants qui arrivent en Suisse sans parents.
Exactement, et je vais plus particulièrement vous parler de comment ils sont pris en charge, depuis leur arrivée en Suisse jusqu'à leur majorité. Et on va essayer de découvrir ensemble s'ils sont considérés comme tout autre enfant, donc s'ils ont accès à une éducation, etc., et s'ils arrivent à mener une vie indépendante après le passage de leur majorité. Pardon.
Par contre, j'en ai jamais entendu parler, c'est une situation peu commune, non ? Enfin, pourquoi tu nous parles de soi ?
Eh bien, figure-toi qu'elle n'est pas si peu commune que ce que tu crois. Je vais te faire une petite devinette. Selon le SEM, Secrétariat d'État aux Migrations, en 2018, il y a eu 15 255 demandes d'asile en Suisse. Combien de ces demandes, tu penses, sont faites par des MNA ?
Alors, je t'avoue que j'en ai aucune idée, mais je sais pas, une petite cinquantaine, ouais.
Eh ben non, il y a eu près de 400 demandes d'asile faites par des mineurs non accompagnés en Suisse en 2018. Ça fait environ 2,5% des demandes d'asile du pays.
400 enfants quand même, ouais. Donc qui débarquent tout seuls. Ouais, c'est vrai que c'est pas anodin.
Et encore, le nombre a très fortement baissé, vu qu'ils étaient presque 2000 à demander l'asile en 2016. À titre informatif, le taux de demande d'asile total en Suisse a diminué de presque moitié en 2 ans, alors que celui des demandes de la part des MNA a été divisé par 5.
Personnellement, je me vois pas du tout partir dans un autre pays sans mes parents.
Effectivement, ça doit être très dur psychologiquement. Et encore, nous, on est bientôt majeurs. Ah, oups, j'ai oublié de changer mon texte depuis mon ami. Donc, je reprends. Nous, on est majeurs depuis peu ou bientôt majeurs, mais il y a 7,2% de ces mineurs qui ont entre 8 et 12 ans, toujours selon le SEM.
Sérieux, aussi jeunes ?
Ouais, c'est choquant, hein ?
Ouais, effectivement. Mais sinon, on dit toujours qu'il y a toujours plus de demandes d'asile de la part des hommes. Est-ce qu'il y a aussi plus de demandes de garçons que de filles chez les MNA ?
Effectivement, il y a une nette différence entre les deux. D'ailleurs, il y a 82,2% des requérants MNA qui sont des hommes, ou des garçons plutôt.
Et on n'en a pas parlé, tu sais d'où viennent ces migrants ?
En 2018, la majorité vient d'Afghanistan, avec 23% des demandes. On retrouve l'Érythrée en deuxième place avec 12%, et en troisième, il y a la Somalie avec 11%. Dans les 14 pays principaux de provenance, on a 9 pays d'Afrique.
Donc c'est les mêmes pays de provenance que les migrants majeurs, ou les migrants comme on entend parler, hein, finalement.
Exactement.
Et à part ça, je viens de me rendre compte que tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure.
Laïka, je m'en souviens plus, désolé.
T'inquiète, je pense que les auditeurs ont aussi sûrement oublié avec toutes ces informations hyper intéressantes, mais un peu surprenantes que tu viens de nous évoquer. Bref, la question était, pourquoi tu as choisi de nous parler de ce sujet ?
Alors, tout d'abord, le sujet des migrations est un sujet actuel. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en parler d'un sujet par rapport à ça ? Puis en fait, je me suis dit qu'en tant que jeune, on pourrait nous s'identifier plus ou moins à ces migrants. Tu l'as d'ailleurs fait tout à l'heure en disant que tu ne voyais pas partir dans un autre pays sans tes parents. Et surtout, je ne voulais pas parler d'un sujet qui a déjà été maintes et maintes fois traité, donc j'ai choisi celui-ci, les migrants MNA.
Ok, bonne raison.
Il faut tout d'abord comprendre que je vais vous parler du contexte européen où les enfants sont majoritairement scolarisés et vivent dans une famille avec une tutelle parentale. Parce que oui, j'espère que je ne vous en apprends rien en vous disant que ce n'est pas le cas dans le monde entier. Le terme migrant mineur non accompagné apparaît à la fin des années 90.
Ah seulement, ça ne fait pas longtemps en fait.
Et oui, et ce sont des associations locales en France, en Italie et en Espagne qui se sont préoccupées les premiers des jeunes errants dans les rues des villes. Ils étaient marocains, albanais, roumains ou algériens. Et étaient souvent dans des états de délabrement physique et mentaux assez inquiétants. Ils prenaient régulièrement des produits psychotropes ou des médicaments anesthésiants et s'infligeaient des scarifications sur le corps. L'auteur du livre dont je tire ces informations, Les mineurs migrants non accompagnés, un défi pour les pays européens de Michel Peralti, affirment pourtant qu'ils étaient polis, respectueux des adultes et timides. Ils se regroupent par bande ou par pair pour reproduire une forme de fraternité.
Ah ouais, ça devait vraiment pas être une situation très facile.
Effectivement, c'est très difficile d'imaginer tout ce que ces jeunes ont enduré. Ces enfants sont la part des migrants qui sont les plus volatiles et mobiles. C'est pourquoi il est très difficile de les quantifier.
Ouais, et pour Pourtant, tu nous as donné ces chiffres, des chiffres très précis tout à l'heure.
C'est vrai, mais je vous ai parlé des requêtes d'asile faites par ces jeunes en Suisse. Celles-ci sont faciles à quantifier vu qu'elles sont enregistrées et légales. Mais une grande partie des MNA sont clandestins et donc difficiles à identifier, nommer et compter. Quelques centaines d'enfants errent dans les villes comme Barcelone, Marseille ou Paris. Attention, il ne faut pas aller trop vite, ce phénomène n'est pas en grande croissance, ce n'est pas une invasion ou une prolifération.
Mais du coup, j'imagine que ce phénomène, il pose quand même des problèmes juridiques.
Exact. Faut-il juste les nourrir et les loger ou participer à leur éducation? Faut-il les renvoyer dans leur pays d'origine? Le sujet est débattu et suscite des aberrations et des absurdités bureaucratiques, des controverses et des polémiques, partout dans le monde. Sont-ils tout d'abord des enfants en danger ou des étrangers? Je vous laisse méditer sur la question le temps d'une pause musicale.
Et on va donc écouter Paradise de Offenbach.
C'est désormais Jacques qui va m'aider à vous exposer le sujet. T'es prête?
Toujours.
Parfait. Donc, avant la petite pause, je vous ai introduit le sujet sur les chiffres des requérants d'asile MNA, puis je vous ai parlé de l'origine de cette appellation. Je le rappelle, les migrants mineurs non accompagnés. Mais nous allons désormais se concentrer sur la Suisse et sur ces mineurs qui demandent l'asile. Il faut savoir tout d'abord que l'âge des demandeurs d'asile peut poser des problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que nombreux sont les migrants qui ne possèdent pas leurs papiers sur eux, pour telle ou telle raison. Et les mineurs ont donc beaucoup de difficultés à prouver leur âge.
Je comprends le principe, mais ça change quelque chose s'ils sont mineurs ou pas?
Justement, oui, ça a un impact considérable sur la procédure de demande d'asile. Les enfants et les adultes n'étant pas pris en charge de la même manière. Mais je vous parlerai de ça plus tard.
Comment ils font du coup s'ils n'ont aucun moyen de prouver leur âge?
Dans ce cas-là, les autorités lancent une procédure formelle appelée évaluation de l'âge, qui leur permet d'établir l'âge d'une personne et donc de déterminer s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant.
Mais elle consiste en quoi cette procédure?
J'allais y venir justement. Je vais vous citer quelques lignes directrices internationales sur la procédure d'estimation de l'âge conçue par l'OSAR, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés pour les représentants, les conseillers juridiques et les personnes de confiance. Je vous expliquerai ce que c'est tout ça plus tard. Donc premièrement, le principe général des présomptions de minorité doit toujours être respecté, c'est-à-dire que si le jeune prétend être âgé de moins de 18 ans, il est traité jusqu'à preuve du contraire comme un mineur. Ensuite,
L'évaluation de l'âge ne doit pas être entreprise de manière systématique ou arbitraire. Elle ne devrait avoir lieu que lorsqu'il existe des doutes, validés par un pédiatre sur l'âge de l'enfant et qu'il est dans son intérêt supérieur qu'elle soit établie. L'opinion de l'enfant doit être dûment prise en compte, en tenant compte de sa maturité, et les autorités doivent veiller à ce que l'enfant comprenne qu'il a le droit de refuser de participer à l'évaluation de l'âge. L'estimation de l'âge doit être une approche multidisciplinaire. Des méthodes globales et holistiques doivent toujours être appliquées. Le cadre multidisciplinaire doit inclure la prise en compte des preuves documentaires, documents d'identité, cahiers scolaires, etc., et un entretien avec l'enfant, durant lequel sa maturité peut être évaluée sur la base d'une appréciation psychologique, émotionnelle, développementale, environnementale et socioculturelle. Voici donc les éléments de cette liste de lignes directrices que j'ai trouvées les plus pertinents. Si vous voulez lire la liste complète, je vous invite à aller visiter le site de ossar.ch dans la rubrique « Mineurs non accompagnés ».
Il n'existe pas une manière médicale de savoir l'âge de quelqu'un aussi ?
Et oui, un examen radiographique de la main peut être utilisé dans le cas où le SEM, secrétariat d'État aux migrations, je le rappelle, met les déclarations du requérant en doute.
Et cette radio, elle est fiable ? Pardon.
Malheureusement, non. Cette méthode est scientifiquement controversée et n'a qu'une pertinence limitée d'après la jurisprudence constante du tribunal administratif fédéral. Mais, depuis 2018, un arrêt de principe a donné de nouvelles indications. Désormais, la radiographie du poignet n'est qu'une première étape du processus. Et celui-ci doit continuer si les doutes persistent par une radio de la clavicule et un scanner des dents. Bon, je suis pas médecin, donc je peux pas vous expliquer comment ça marche.
Je crois que les os des adultes et des enfants sont différents, surtout dans certaines parties du corps. C'est pour ça qu'ils veulent en faire des radios, en fait.
Je pense que c'est ça, ouais. Bon, toutes ces méthodes sont plus ou moins fiables, comme on a pu le dire. Du coup, les autorités se basent aussi sur l'apparence du requérant et ses déclarations. Et elles ont d'ailleurs une importance centrale pour déterminer la crédibilité des affirmations concernant son âge.
Qu'est-ce qui se passe si la conclusion de toutes ces méthodes est que le jeune est un jeune adulte alors qu'il avait prétendu être mineur ?
Donc si le SEM conclut que le requérant n'est pas mineur, on lui donne la possibilité de prendre position à ce sujet. Il va donc avoir le droit d'être entendu. Je pense que la suite dépend de chaque cas.
Une fois que le requérant a été identifié comme mineur, comment se passe la procédure ? Tu nous as dit précédemment que les procédures pour un MNA et pour un adulte étaient différentes ?
Effectivement, la situation d'un MNA, comme je vous l'ai expliqué, est très particulière. C'est pourquoi les demandes d'asile de requérants MNA doivent être traitées en priorité en Suisse. Une personne de confiance est également désignée par les autorités cantonales compétentes.
Elle sert à quoi, cette personne ?
Elle sert à représenter les intérêts du requérant et à l'accompagner, à le soutenir pendant la procédure d'asile.
Les adultes n'ont pas de personne de confiance attitrée à leur arrivée, non ?
Non, car vu qu'ils sont majeurs, ils dépendent que d'eux-mêmes, contrairement à mineurs qui, comme le désigne son titre, dépendent d'une tutelle légale. Les autorités doivent tenir compte des besoins des enfants et des adolescents, comme écrit dans l'article 53 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
Nous parlons là de personnes qui ne sont pas accompagnées de leurs parents, mais que se passe-t-il si l'enfant est accompagné de frères, sœurs ou des familles prisonniers ? Ça arrive parfois, non ?
Oui, ça arrive, mais c'est si légalement ces personnes ne sont pas ses tutelles, alors le mineur est considéré comme non accompagné. Cependant, il est possible que des membres de sa famille séjournent dans un État membre de l'accord de Dublin. Dans ce cas, cet État est désigné comme responsable de traiter la demande d'asile, déjà introduite dans le pays d'arrivée. Par exemple, un mineur qui arrive en Italie tout seul, mais que les autorités italiennes retrouvent un frère ou une sœur de cet enfant qui habite en Suisse, c'est la Suisse qui va traiter la demande d'asile de l'enfant et il pourra alors retrouver le ou les membres de sa famille, résidant en Suisse. Sa demande est toujours celle d'un MNA, car dans mon exemple, c'est seulement un frère ou une sœur et non pas un parent qui a été retrouvé, même si celui-ci est majeur.
Si j'ai bien compris, si aucun membre de la famille séjourne dans un des États membres, l'enfant reste dans le pays dans lequel il est arrivé.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une différence avec les adultes dans tout ce que tu viens de nous expliquer ?
Alors oui, il y a une nette différence car l'accord de Dublin stipule qu'un requérant d'asile qui a déjà fait une demande dans un État membre de cet accord ne peut pas faire une autre demande dans un autre des États. Ce qui signifie que peu importe si tu as de la famille dans un autre de ces pays, tu es obligé de rester dans le pays dans lequel tu as déposé ta première et seule demande d'asile. Normalement, celui où tu es arrivé. Donc par exemple, si tu veux rejoindre l'Europe par bateau, mais que tu veux arriver jusqu'en Suisse où il y a un membre de ta famille, tu es obligé de passer les frontières clandestinement jusqu'à la Suisse pour y déposer ta demande d'asile.
Ok, et ça c'est le cas d'un adulte.
Oui, comme j'ai dit avant, pour les mineurs, c'est différent.
C'est comme un privilège pour eux, en fait, non ?
Oui, on peut appeler ça comme ça.
Mais je pense que c'est totalement justifié en même temps.
Je pense aussi. C'est quand même des enfants, donc ils sont plus fragiles. Il faut penser à les protéger et à faire passer leur bien-être en premier. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas ?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sinon, après la demande d'asile, il se passe quoi pour eux ? Ils attendent juste l'acceptation ou le refus ? Ou ils ont droit à une éducation, etc. ?
C'est bien que tu poses ces questions, mais il va falloir attendre la semaine prochaine pour que j'y réponde. On va parler des droits, mais aussi des devoirs des MNA et de leur intégration en Suisse.
Ok, super. J'ai hâte d'écouter tout ça. Mais je pense qu'on a tous besoin d'un rapide résumé de ce que tu nous as dit jusqu'à présent.
Ok, alors ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit, c'est que même si elle représente une petite partie des requêtes d'asile en Suisse, c'est quand même beaucoup pour une situation aussi particulière. Leur statut est pris en compte durant toute la procédure de demande d'asile et ça leur accorde certains privilèges, comme celui de pouvoir rejoindre leur famille si elles séjournent dans un État membre de l'accord de Dublin.
Et il me semble que tu as parlé de l'origine de cette appellation, migrants mineurs non accompagnés, non ?
Exactement, elle a été introduite il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 90, quand des pays européens ont remarqué la présence d'enfants errants dans les rues de grandes villes dans des états critiques.
En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. J'en avais jamais vraiment entendu parler et j'ai appris plein de choses, comme nos auditeurs, je pense.
J'espère en tout cas.
On attend tous la suite, mais pour l'instant, je pense qu'il est l'heure de se détendre un peu, car on a été sérieux un peu longtemps à mon goût.
Ça tombe bien qu'on va tout de suite écouter de la musique avec Soldi de Mahmoud. Et on se retrouve juste après pour parler drague avec ma chronique.
In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se pensavi solo ai soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Lei mi chiederà.
Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi. Avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno.
Donc, dans ce troisième épisode de ma chronique sur la drague, nous allons écouter un interview de William, un coach en séduction français de 32 ans. Il est spécialisé dans la séduction des hommes sur les femmes, c'est pourquoi ses réponses concernent majoritairement, les hommes. Et il se base surtout sur son expérience. Voici donc ses réponses à certaines de mes questions.
Pour aborder les femmes, il faut être serein, calme, zen et être tranquille. Il faut être bien dans sa peau. Et enfin, en fait, en commençant à faire du sport et même à faire un peu de la musculation, vous verrez, vous, rapidement, au bout de plusieurs semaines, vous verrez que vous êtes plus calme, plus tranquille. Vous êtes beaucoup mieux dans votre peau. J'aimerais vous conseiller de commencer à faire du sport, par exemple de la marche à pied même, ça suffit. Sinon, vous mettre à faire de la musculation. Alors quand j'entends parler de la musculation, ça ne veut pas dire devenir un bodybuilder énorme, ça veut dire tout simplement renforcer un peu ses muscles, prendre un tout petit peu de volume, et ça va vous rassurer et vous tranquilliser auprès des femmes. Déjà les femmes, elles aiment bien les hommes un petit peu musclés, qui ont un peu des formes d'hommes, et aussi parce que ça va vous apporter les endorphines. Donc à chaque fois que vous ferez du sport, ça va vous apporter les endorphines, c'est des hormones du plaisir et du bien-être. Donc en fait, je vous conseille de vous mettre à la musculation et de faire du sport, de la marche à pied, du vélo, tout ce qui est un petit peu bon comme ça, de la piscine. Parce que faire du sport, moi, ça m'a permis d'être plus posé, plus calme et être bien dans ma peau. Voilà.
D'accord. Et ensuite, comment faut-il se préparer physiquement avant d'aller draguer ?
Donc, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous allez aborder les femmes, il faut être bien habillé, il faut être bien sapé, comme on dit, et il faut être propre sur soi. Alors, quand je dis être propre sur soi, ça ne veut pas dire forcément ne pas avoir de barbe, être bien rasé. Bon, moi, je préfère en général être bien rasé, mais on peut très bien avoir la barbe et être propre. Cependant, c'est dans l'habillement, avoir une belle chemise. Mettez également des beaux sweatshirts, une belle veste, chic, être bien habillé, être clean. Alors quand je veux dire également être propre sur soi, c'est-à-dire que avant d'aller aborder les femmes, et bien évidemment, il faut avoir pris sa douche et être bien nastiqué, on va dire, bien propre.
Ah oui, effectivement, il faut mieux être propre. Sinon, que pourriez-vous nous dire sur le meilleur endroit pour aller séduire des filles ?
Alors, il faut savoir que les discothèques, c'est l'endroit idéal et l'endroit rêvé pour aller draguer. Pourquoi ? Parce que les filles vont se chercher un mec dans ces discothèques. En général, peut-être pas à 100%, mais la plupart du temps, les filles sont là pour se trouver un mec ou passer une bonne soirée avec les copines et éventuellement se discuter avec des hommes. Donc moi, d'après mon expérience, je suis favorable. Alors c'est vrai qu'il y a toujours du pour et du contre. Hein. Certains vont vous dire non, en discothèque c'est pas bien, il y a trop de bruit, les filles se font aborder plein de fois dans la soirée, 15 fois par soirée, elles en ont marre de se faire aborder et tout. Et en fin de compte, moi je mettrai un bémol, c'est pas tout à fait le cas. Parce que si les filles n'ont pas envie de se faire aborder, elles ne mettront pas les pieds en discothèque. Premièrement. Deuxièmement, si la musique est trop forte, ce qui est vrai, vous pouvez toujours vous décaler et aller un peu plus loin des enceintes. Et alors à ce moment-là, vous pourrez parler tranquillement à la fille. Bien sûr, il y aura encore un peu de bruit, mais au moins vous pourrez discuter et vous entendre. Donc, moi je vous dis, les discothèques, c'est un endroit idéal et un endroit rêvé pour rencontrer plein de belles filles et séduire les femmes. Alors, d'après mon expérience, on ne peut pas toujours se sortir une fille et embrasser une fille en discothèque, mais je peux vous dire que ça a déjà marché pas mal de fois pour moi. Choisissez la meilleure discothèque où il n'y a pas trop de gens ringards et chiants. Allez dans une boîte qui vous plaît bien et abordez un maximum de filles dans ces discothèques. Voilà. Il faut aller en discothèque, c'est important. Les filles ont envie chaque semaine de décompresser, de passer un peu de bon temps, et après avoir passé une semaine pénible au travail et en général, elles ont envie de sortir un peu.
Donc voilà des bons conseils plutôt drôles que j'ai trouvé sur YouTube et que j'ai coupé pour garder les meilleures parties. Donc j'espère que grâce à ces conseils, on va pouvoir devenir un des meilleurs séducteurs. Enfin, on va, moi ou vous, devenir un des meilleurs séducteurs. Sur ce, je vous laisse méditer sur les premiers épisodes mal chroniques que vous retrouverez sur notre blog sur radiobus.fm et je vous attends la semaine prochaine pour l'ultime épisode qui va, je pense, être très drôle.
Et nous voilà déjà arrivés à la fin de notre avant-dernière émission.
Exactement, malgré un ordi qui n'a pas été très coopérant, on est à la fin et la semaine prochaine, c'est la dernière émission. Tu crois ça déjà?
Non, c'est passé tellement vite.
Ouais, bon, on se retrouve du coup la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi, samedi et dimanche à partir de 21h sur Radio Bus.
Et n'oubliez pas que si vous avez loupé ou que vous voulez réécouter une de nos émissions, vous les retrouvez en podcast sur notre blog sur radiobus.fm.
Exact, et on va tout de suite rendre l'antenne parce que je pense qu'il y a d'autres gymnases ou d'autres écoles qui sont impatients de présenter des sujets.
A plus sur Radio Bus.
Des reportages inédits,
des chroniques fantastiques,
de l'actualité et de la bonne musique.
Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, sur Radio Far West.